Histoire des féministes, réalisée et animée par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent fidèlement. Eh bien, après avoir évoqué les recluses et les béguines dans les émissions précédentes, aujourd'hui, nous poursuivons cette première partie de notre histoire des féministes en parlant tout d'abord des femmes que l'on a nommées sorcières. Ce mot vient du latin « sor, sortis » égale « sortilège »,« maléfice », qui exprime le reflet magique généralement néfaste attaché à une personne ou à une chose et qui résulte de certaines opérations. Dans l'Antiquité, les sorts sont des sortes de dés dont on se servait pour rendre les oracles. En quoi les sorcières sont-elles des proto-féministes, direz-vous ? En effet, qu'est-ce que le mot « sorcière » évoque d'emblée pour nous, de nos jours ? Eh bien, il évoque une vieille femme, laide, édentée, coiffée d'un chapeau noir pointu, chevauchant un balai au clair de lune, accompagnée d'un chat noir ou d'un corbeau. C'est bien ça, je pense. Bref, un être maléfique, une femme méchante, ricanante, qui fait peur aux enfants. C'est la sorcière des contes de fées, des anciennes légendes germaniques et slaves, souvent utilisées dans les films d'animation ou dans les ballets dansés d'aujourd'hui. Quand elle est présentée sous un jour plus avenant, elle est fée, magicienne, peut se déplacer dans les airs, traverser les murs, surprendre, etc. Vous l'avez compris, il est nullement question dans notre récit de ces êtres purement imaginaires, fantastiques, mais il est question de femmes bien réelles, faites de chair, de sang et d'os, ne se distinguant pas du tout de l'ensemble des femmes, et pourtant traquées, tuées dans ce féminicide de masse qu'on appelle les chasses aux sorcières. Pourquoi ? Mais qui était-elle au juste, celle qui, dans l'Europe de la Renaissance, 15e, 16e et début 17e siècle, dans l'Europe de l'humanisme, ont été accusées de sorcellerie, se demande Mona Chollet, CHO2LET, journaliste écrivaine, dans son ouvrage de 2018 intitulé « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », édition La Découverte. Quel type de femmes ces siècles de terreur ont-ils censurées, éliminées, réprimées, poursuit-elle ? Et quel lien avec les nombreuses formes de violence masculine auxquelles les femmes sont confrontées aujourd'hui de par le monde ? Quelle connexion passé-présent ? Car il y en a une. Cela commence au XVe siècle, mais 1486 est une date mémorable car c'est celle de la publication d'un document fondamental d'où vient tout le mal pour les femmes, le Maleus Maleficarum en latin. Maleus signifie marteau maillé et Maleficarum nuisible funeste. Ce titre est traduit par le marteau des sorcières, un texte d'une rare misogynie qui n'a pas fini de nous hanter, dit Patrick Snyder, S-N-Y-D-E-R. Patrick Snyder, c'est un professeur à l'université de Sherbrooke, au Québec, docteur en théologie et philosophie, qui a étudié le marteau. Un livre exudant la haine des femmes et qui n'appelle à rien moins qu'à les torturer pour déterminer lesquelles sont des sorcières. Je cite là Titiou Lecoq, page 128 de son livre « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes », un livre que nous avons cité à plusieurs reprises. Le marteau des sorcières incarne une véritable guerre masculine contre le genre féminin, dit encore Patrick Snyder. Il est le premier traité de ce type à établir un lien entre le genre féminin et la sorcière. Le texte est si violent qu'il semble avoir été rédigé par des individus malades, ajoute Sylvia Federici dans l'ouvrage collectif « Féminicide, une histoire mondiale », édition La Découverte, 2022. Les auteurs du marteau sont deux professeurs de théologie allemands. Ce livre a connu une très large diffusion, un succès spectaculaire à plus de 30 000 exemplaires en Europe, réédité 34 fois, édité en format poche à l'usage des spécialistes religieux et laïcs chargés d'instruire les procès en sorcellerie. format poche plus petit, plus commode à être consulté avec discrétion. Tout ceci est advenu grâce à l'outil nouveau de diffusion du savoir et de la connaissance qu'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1453. Mais comme pour l'Internet aujourd'hui, l'outil n'est qu'un outil, ce qui importe, c'est l'usage qu'on en fait, dit Titiou Lecoq. En l'occurrence, cet outil a servi à ce moment-là à diffuser et à entretenir la haine des femmes. Malleus, un marteau, pour fracasser la tête des femmes sorcières. Le terme « marteau » faisait partie du vocabulaire de la tradition inquisitoriale religieuse. Le malleus est fait pour combattre. Le travail de l'inquisiteur et de son manuel, c'est d'écraser les hérétiques et l'hérésie. Le marteau des sorcières s'inscrit dans cette tradition en ciblant les malfaisantes qu'il faut désormais fracasser. Mêlant adroitement les textes théologiques, c'est-à-dire les textes religieux, et les contes et légendes populaires, il élabore et diffuse les stéréotypes imaginaires de la femme comme sorcière alliée de Satan. Alors il y eut deux vagues de chasse aux sorcières, mais l'apogée de ces chasses se situe entre 1560 et 1650, 16e et 17e siècle, où elles deviennent des féminicides de masse. Il y eut aussi des hommes victimes, mais les femmes représentent les trois quarts des 60 000 personnes envoyées au bûcher. Dans les 110 000 procès en sorcellerie, 80% des accusés sont des femmes. Ces féminicides de masse ne s'apaiseront qu'après 1650, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors avec stupéfaction, nous découvrons que cette période correspond à celle de la civilisation qu'on appelle la Renaissance. Or, pour nous, puisqu'on nous l'a appris en cours d'histoire, cette civilisation est belle, elle est celle de la promotion des arts, l'histoire de l'art est pleine de chefs-d'œuvre, de peintures représentant de belles femmes. La Renaissance est la civilisation de la foi en l'homme, de l'humanisme, de l'idée de progrès. Mais en réalité, ceci est vrai et faux en même temps, nous dit Jean Delumeau, historien, dans son ouvrage « La civilisation de la Renaissance », page 144. En fait, la Renaissance fut à la fois raison et déraison, dit-il. Ce temps s'enthousiasma pour la beauté, la raison, mais donna une place immense à l'inconnu, l'abscon, l'incompréhensible, l'inexplicable. L'inexplicable qui provoque l'angoisse existentielle, elle-même source de croyances irrationnelles, diverses et variées. Les philosophes, les gens cultivés eux-mêmes, ne doutaient pas de la réalité de la sorcellerie. En vérité, les humanistes partageaient les croyances et le manque d'esprit scientifique de leur temps, sa forte misogynie aussi. Cette période a vu l'exaltation nouvelle du nu féminin, mais aussi la répulsion à l'égard de la femme vieille, usée par les maternités et dont on a oublié la beauté perdue. Jean Delumeau souligne que les poètes de la Renaissance appartenant à la caste aristocratique, Ronsard, Du Bellay, Agrippa d'Aubigné par exemple, ont dressé un portrait ignoble de la vieille femme laide, le plus souvent représentée comme une, entre guillemets, carcasse squelettique. Ronsard conseillait déjà de, entre guillemets, laisser la vieille et de, entre guillemets, prendre une nouvelle. Son poème intitulé « Contre Denise sorcière » n'est qu'une longue litanie d'injures adressées à une vieille femme du Vendômois qui avait été soupçonnée de sorcellerie et fouettée nue. Dans une atmosphère saturée d'inquiétude et de sacré, le diable semble rôder partout. Les misères collectives, les calamités telles la famine, les ravages de la peste noire, les révoltes sociales contre l'ordre féodal provoquent la peur bien réelle de la fin du monde ou de la fin d'un monde et la peur du diable en tant que maître d'œuvre de cette catastrophe. Comme elles sont faibles et crédules, dit le marteau, les femmes sont les alliées du diable dans cette entreprise. Elles en ont fait un pacte avec lui, elles copulent même avec lui. Or, après le péché de Lucifer, le péché des sorcières surpasse tous les autres, dit le marteau, page 182. Par leur pacte avec le démon, les femmes représentent un danger pour l'humanité. Elles sont responsables de tous les maux qui frappent les humains. La femme sorcière est l'incarnation vivante du diable sur la terre, conclut le marteau. Je souligne cette phrase. Il faut donc s'en débarrasser, la poursuivre, la chasser, l'éliminer pour sauver le monde, pour sauver les mâles. Voilà qui bouleverse notre idée partielle de ce que fut la Renaissance, ou plutôt de ce qu'elle ne fut pas pour les femmes. Deux points. Un progrès intellectuel et social. Bien au contraire, elle fut pour les femmes le moment où on les tue en masse, en les qualifiant de sorcières, où on les fait disparaître de l'espace public, le début de la période où, jusqu'à la fin du XIXe siècle, et contrairement aux hommes, leur position sociale va se dégrader fortement. Elles vont perdre en liberté pendant des siècles. C'est ce que l'historien Guy Bechtel, B-E-C-H-T-E-L, dans « La sorcière et l'Occident », édition Plomb 1997, dit, je cite, « On peut imputer au marteau des sorcières la dégradation de l'image de la femme et de son statut en Occident jusqu'au XXe siècle. » Donc, l'influence du marteau a, dans l'esprit des hommes, des conséquences néfastes et durables de l'idée qu'ils se font de la place des femmes dans la société. Et ce, aussi bien chez les hommes détenteurs des pouvoirs politiques, économiques et religieux, que chez les hommes du peuple. Cette influence du marteau, nous en avons vécu des exemples au XXe siècle et nous en ressentons les effets au XXIe siècle. C'est la connexion passé-présent évoquée en introduction et que nous retrouverons en conclusion. Mais comment sommes-nous au courant de cette histoire, puisqu'on ne nous l'a pas apprise? Parce que les féministes s'y sont penchées, dans les années 1970, au XXe siècle, en cherchant à reconstituer l'histoire des femmes, qui avait toujours été écrite par des hommes, les historiennes féministes ont découvert que les sorcières n'étaient pas des créatures fantastiques, de pure invention, mais des personnes humaines qui avaient réellement existé et avaient été massacrées en grand nombre parce qu'accusées de sorcellerie. Pour la première fois, ces persécutions ont été étudiées par des femmes qui pouvaient ressentir dans leur corps, moi j'ajoute leur chair, dans leur cœur, quelque chose du désarroi, de la détresse, de la douleur vécue par les accusés, une part de leur terreur face à leur mise à mort sur le bûcher, écrit Silvia Federici. Avant les féministes de 1970, toutefois, la toute première féministe à exhumer l'histoire vraie des sorcières a été l'États-unienne Matilda Jocelyn Gage, G.A., G.E. au siècle précédent, au XIXe siècle. Elle militait pour le droit de vote des femmes, comme Hubertine Auclert en France, ce que nous verrons en deuxième partie au sujet des féministes de la première vague. Dans l'ouvrage intitulé « Femmes, Église, État » en 1893, elle livre une lecture féministe des chasses aux sorcières. Je la cite « Quand, au lieu de sorcières, dit-elle, on choisit de lire « femmes », on gagne une meilleure compréhension des cruautés infligées par l'Église à cette portion de l'humanité. » La définition de la sorcellerie comme étant un crime impliquant l'adoration du diable trouve son origine dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge. Et en effet, cette idée de sorcellerie a été forgée à l'initiative de l'Église dans sa lutte contre l'hérésie et contre les femmes. Je cite toujours Silvia Federici. À la parution du Marteau des sorcières en 1486, l'Inquisition, qui est la recherche des hérétiques, l'Inquisition religieuse, en effet, était active depuis 200 ans déjà. Nous en voulons pour preuve le procès de Jeanne d'Arc en 1430 et sa mort sur le bûcher en 1431. Son procès fut d'abord un procès politique, tel que voulu par les ennemis, les Anglais, mais il fut tout autant un procès en sorcellerie, car pour les hommes au pouvoir, toute contestation, toute indocilité, tout apparent non-conformisme, toute manifestation d'intelligence de la part des femmes est un commerce avec le diable. Le tribunal inquisitorial que préside un ecclésiastique, l'évêque Cauchon, C-A-U-C-H-O-N, à la solde des ennemis, condamne Jeanne comme, entre guillemets, hérétique, relapse, relapse c'est une chrétienne retombée dans l'hérésie, et idolâtre, sous-entendu du diable. Qui étaient donc ces femmes exécrées? Qu'ont-elles fait réellement pour être ainsi pourchassées, persécutées systématiquement par les hommes? Quels crimes ont-elles commis? Finalement, qu'est-ce qui leur est reproché? D'être hérétiques, relapses, idolâtres, comme Jeanne d'Arc? D'être des suppôts de Satan? Mona Chollet, déjà citée, a repéré trois types de femmes déclarées sorcières malfaisantes pour ce qu'elles sont, pour leur situation, leur comportement. Premièrement, la femme seule, non, entre guillemets, protégée par un homme, c'est-à-dire la femme indépendante. Ce sont les veuves et les célibataires, très souvent pauvres, les premières visées par les inquisiteurs, leur premier gibier. Deuxièmement, la femme sans enfant, puisque l'époque de la chasse aux sorcières a vu en même temps la criminalisation de la contraception et de l'avortement, la fin de la tolérance pour celles qui voulaient contrôler les naissances, empêcher ou interrompre une grossesse. On a vu avec Aliénor d'Aquitaine qu'une femme pouvait être enceinte pratiquement toute sa vie, jusqu'à la ménopause. Le marteau vise les guérisseuses en général. Elles sont soupçonnées d'être des empoisonneuses à cause de leur connaissance des propriétés, des vertus des plantes et des herbes. Mais le marteau vise tout particulièrement les sages-femmes. Elles sont accusées de cannibalisme. Elles mangent les enfants. D'être des avorteuses, de préparer des recettes anticonceptionnelles. En aidant les femmes à contrôler leur fécondité, elles dépeuplent littéralement la société chrétienne. D'après les auteurs du marteau, elles vont jusqu'à s'attaquer au symbole du patriarcat, le membre viril. Elles ont des bocaux pleins de pénis frétillants, cherchant à se libérer. Alors, elles sont soupçonnées de rendre l'homme impuissant. Elles en arrivaient donc à détruire le couple, la famille, la cohésion sociale et la chrétienté. Bref, la société tout entière, telle qu'elle était à une époque où l'on en redoutait le changement. Troisièmement, la vieille femme, pauvre, laide, devenue un objet d'horreur, et qu'il est resté depuis. La femme, en vieillissant, perd son capital corporel, sa fécondité et sa beauté, selon les critères dominants des canons de la beauté féminine. L'injonction faite aux femmes de paraître éternellement jeunes les oblige à tricher et on prend prétexte de ces tricheries, les crèmes anti-âge, les liftings, etc., pour dénoncer leur fausseté et mieux les disqualifier. Mais outre l'aspect physique, ce qui est rédhibitoire chez la femme âgée, c'est l'expérience. Selon Guy Bechtel, Le maléfice, c'était un art. Les sorcières avaient donc dû faire leur classe, apprendre leur savoir, devenir expérimentées. Donc, les femmes âgées étaient naturellement plus suspectes que les jeunes. Avec les chasses aux sorcières, le savoir, la sagesse, ce pouvoir de l'expérience, l'expertise, autrefois admiré et utile, ont été présentés comme dangereux, mortifères. La femme savante est crainte, elle fait peur aux hommes. Les femmes qualifiées de sorcières, comme les recluses, comme les béguines, ont eu le loisir d'observer longuement leurs contemporaines et contemporains. Cela leur a apporté une clairvoyance sur les ressorts du comportement humain. Elles utilisaient cette expérience pour les autres. C'est pour cela que l'on disait d'elles qu'elles, entre guillemets, lisaient dans les cœurs, pour cela qu'elles étaient craintes, redoutées par certains et admirées par d'autres. Comment leur faisait-on avouer un crime contre l'humanité, un crime qu'elles n'avaient pas commis ? Par la torture. Le récit des tortures utilisées est insoutenable, nous disent celles et ceux qui l'ont lu. Le sadisme des hommes est inépuisable. Les démonologues, ce sont ceux qui étudient la nature et l'influence supposée des démons. Les démonologues recommandent aux bourreaux de ne pas se laisser émouvoir par les larmes, considérées comme une ultime ruse des femmes sorcières. Ce sont des larmes feintes, pas de pitié. Les tortionnaires jouissent alors de la domination absolue qu'ils exercent sur les prisonnières, dit Mona Chollet. Ils peuvent donner libre cours en toute impunité à leur voyeurisme et leur sadisme sexuel. Ils y sont même encouragés. Après leur arrestation, les accusés étaient dénudés, rasés entièrement et livrés à un piqueur. Le piqueur recherchait sur leur corps, à la surface et à l'intérieur, la marque du diable, preuve qu'elles étaient des sorcières, en y enfonçant des aiguilles. Beaucoup de prisonnières étaient si choquées par ce viol de leur pudeur, ce viol tout court, qu'elles s'évanouissaient à moitié et ne réagissaient pas aux piqûres. C'était pour les tortionnaires la preuve qu'elles étaient bien des sorcières à la solde du diable. Beaucoup de condamnés, au moment de leur exécution, ne peuvent même plus se tenir debout sur le bûcher. Autre forme de torture, la baignade. La femme est jetée à l'eau. Si elle coule, elle est innocente. Si elle flotte, c'est la preuve qu'elle est une sorcière et doit être exécutée. Elle meurt de toute façon. Aucun groupe au monde ne fut jamais si longtemps et si durement insulté, estime Guy Bechtel dans « Les quatre femmes de Dieu, la putain, la sorcière, la sainte et Bécassine », édition Plomb 2000. Malgré tous ces sévices, en fait, aucune preuve d'un mal qui aurait été commis par les accusés n'est nécessaire aux inquisiteurs pour qu'ils prononcent une condamnation à mort. Ce qui montre bien, nous dit encore Silvia Federici, que la chasse ne vise pas à punir des crimes spécifiques, mais cible un type de personne, un type de femme, les trois types que nous venons de décrire et que l'on peut synthétiser ainsi. La sorcière, c'était par-dessus tout la femme rebelle qui disait ce qu'elle pensait, était prête à se battre contre les abus et n'était pas soumise ni à un mari, ni à un maître, comme les recluses et les béguines, on l'a déjà vu. Celle qui marche la tête nue, prenant les choses du quotidien en main, tandis que les hommes sont partis à la pêche lointaine pendant des jours et des semaines. La femme sorcière incarne à nos yeux la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle nous montre la voie. C'est une première féministe, une proto-féministe, dit Mona Chollet. Alors, la connexion avec le présent. Revisiter l'histoire des sorcières permet de montrer que la violence envers les femmes survient uniquement lorsqu'elle est tacitement cautionnée d'une manière ou d'une autre par les institutions. Silvia Federici cite l'État et l'Église, et que les auteurs de violences se sentent légitimes et ne craignent pas d'en être tenus pour responsables. Un ouvrage collectif sous la direction d'Ernestine Ronet et du juge Édouard Durand, paru récemment en 2021, aux éditions d'Uno, intitulé « Violence sexuelle, en finir avec l'impunité », ne dit pas autre chose. Je le cite, « Les violences sexuelles sont un phénomène de très grande ampleur dont la reconnaissance par les pouvoirs publics et la société dans son ensemble n'en est qu'à ses balbutiements. L'écart est encore immense entre les faits de violences sexuelles et les condamnations des agresseurs. Il n'est pas excessif de considérer que cela constitue un système d'impunité pour les agresseurs. » Nous ne pouvions pas imaginer, en nous intéressant à l'histoire des sorcières, que de nouvelles formes de chasse aux sorcières étaient en gestation et que le déchaînement de violence contre les femmes serait tel que le terme de féminicide émergerait pour les qualifier, dit Silvia Federici. L'intérêt des féministes, des nouvelles générations, des jeunes féministes, pour l'histoire des sorcières est en pleine récupération marchande, ce qui contribue à obscurcir encore davantage les faits historiques que nous venons de relater à grands traits. Les sites où se sont déroulées les cruelles chasses aux sorcières sont transformés en attractions touristiques pour amuser un public ignorant. Par exemple, Salem en Amérique du Nord ou Sara en Pays Basque, à la frontière franco-espagnole. On vend des poupées, des torchons et des tasses à café à l'effigie de la sorcière. L'image de la sorcière chevauchant son balai apparaît sur des plaques dans les rues. Toute cette indécence contribue à occulter, une fois de plus, le fait que, jusqu'au XXe siècle, la chasse aux sorcières a été le cas de persécution de masse le plus important de l'histoire occidentale. J'en arrive à la conclusion. Le lien avec le présent, nous faisons le constat de la continuité dans le temps, depuis des siècles et des siècles, de l'aspiration des femmes féministes à l'indépendance, à une liberté égale à celle des hommes. On le voit encore une fois, comme on l'a vu pour les béguines, ce qui dérange profondément le genre masculin chez les femmes féministes, ce qui lui est insupportable, ce qu'il redoute, ce qu'il combat, souvent violemment, de manière visible ou invisible. Nous le verrons au XXe siècle. C'est leur indépendance par rapport à lui, leur émancipation de sa tutelle. Nous le constaterons encore et encore dans les siècles suivants, tout au long de ce récit, jusqu'à notre XXIe siècle. Alors, j'ai fini pour l'instant. Je voulais simplement, pour terminer, faire une lecture d'un texte en forme de poème en prose d'une amie dignoise inspirée, Michèle Plurien, Pluren, qui est un texte écrit en novembre de cette année en trois tableaux. Tableau 1. Dans la mythologie grecque, je suis associée à Aphrodite et je représente la liberté. Je suis la blanche colombe. Parfois, en robe blanche, j'apparais au Moyen-Âge comme le symbole de pureté et de grâce. Je suis la licorne. Tableau 2. Je suis tellement rieuse que je ne peux être qu'une mouette. On peut dire de moi que je suis très bavarde et attirée par tout ce qui brille. Je suis la pie qui vole et qui jacasse. Je peux aussi orner les salons. Certains apprécient mes parures et on dit de moi que j'ai une cervelle d'oiseau. Je suis l'alouette. Tableau 3. Malgré tout, je suis classée comme une espèce nuisible et maléfique. Je suis la corneille. On me pourchasse et on me craint car je sors souvent la nuit en volant. Je suis la chauve-souris. Je possède un don de clairvoyance. Je suis la chouette. Je fais peur aux petits et aux grands qui m'attribuent des pouvoirs maléfiques. Je suis la sorcière du placard au balai. Alors que jeune, j'étais considérée comme une fée, je suis devenue très méchante en vieillissant. Je suis la femme sorcière.
Merci Jacqueline Engrave pour cette émission, donc l'histoire des féministes. On se retrouve au mois de janvier.
Peut-être plutôt au mois de février.
Ah, d'accord. Bonne journée et puis ben, bonne fête alors. Et puis,
merci.
À l'année 2024.
Oui, bonne fête à toutes et à tous.
Au revoir.
Merci Odile.